qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission Il n'y a pas que le 8 mars et en podcast sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Joël.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Et bonjour Natacha.
Bonjour Elodie.
Et bonjour à nos invités Gilles et Patricia.
Bonjour.
Bonjour.
Meilleurs vœux pour 2025. On vous souhaite une année féministe et on vous le dit dans cette émission.
Oui, une année qui parle à ce qui est commun aux femmes, lire, chanter, écouter, danser, regarder, partager, vivre avec les autres. Des sujets qui regroupent, comme une sorte de fraternité, mais au féminin. Ce qui regroupe, oui, pas ce qui coupe, pas ce qui divise. On n'est pas dans les nuages. Être femme, naître femme, n'empêche pas l'avidité, la quête du pouvoir absolu, le racisme ou le nationalisme. Non, non, pas tout ça. Aujourd'hui, on ouvre avec vous la mallette des coups de cœur pour démarrer une nouvelle année féministe. Et accrochez-vous, on passe de Annie Arnaud à la famille Kardashian.
Et on vient d'entendre une artiste qui fait partie de la discothèque féministe lancée par la tannerie. Gilles, Patricia, vous nous présentez cette artiste?
Alors, l'artiste en elle-même, c'était Mamie Blues. Il se trouve que ce morceau qu'on vient d'entendre, et cet artiste, pour le coup, c'est le premier blues qui ait jamais été enregistré en 1920. Et il se trouve que c'était une artiste féminine pour montrer que, en fait, cette musique qui est le blues, qui va ensuite irriguer l'ensemble de la musique populaire américaine et du monde entier, et ben ça vient d'une artiste féminine à la base. Et il y a beaucoup d'artistes féminines de cette époque-là qui vont en fait générer cette musique blues qui va devenir super populaire ensuite.
Alors, je vous réintroduis, Gilles, vous êtes directeur de la SMAC, la tannerie à Bourg-en-Bresse. Patricia, vous êtes artiste, vous réalisez notamment des ateliers avec des scolaires pour la tannerie. Depuis plusieurs années, on sait qu'il y a une volonté à la tannerie de mettre en avant des femmes, que ce soit sur scène, en tant qu'artiste ou dans l'ombre, en tant que technicienne. Et là, vous vous attaquez à un autre domaine, on vient de l'entendre, c'est celui du patrimoine ou du matrimoine avec la discothèque. C'est quoi le principe déjà pour qu'on comprenne ce que c'est que cette discothèque?
Alors, la discothèque féministe, ça se présente, pour synthétiser, comme un fonds de ressources, un centre de ressources sur les productions de production phonographique musicale féminine. Donc, ça regroupe les compositrices, les artistes, les musiciennes, les chanteuses, tout ce qui a trait à... ça peut même être les productrices. Et donc, on essaie de collecter tous les supports physiques musicaux dans notre discothèque. Il y a plusieurs angles. Déjà, il y a un angle de conservation, parce qu'il y a des documents qui risquent de disparaître, notamment supports vinyles. On a des artistes, par exemple, africaines ou dans des endroits où il y a eu des pressages très faibles de disques. Eh ben, l'idée, c'est de sauver des documents qui peuvent disparaître, qui n'ont jamais été numérisés. Et puis, il y a aussi une volonté de donner accès à la recherche, par exemple, faire un fonds de ressources pour la recherche et d'être un peu une référence vers laquelle les chercheurs se tournent s'ils sont en recherche de documents. J'oublie des choses, Gilles.
L'idée, c'est aussi de pouvoir travailler à montrer les choses, faire écouter les choses,
ouais.
Voilà, une sensibilisation, et essayer de bien démontrer cette invisibilisation qui a eu lieu autour des artistes féminines dans la musique, mais on sait que c'est dans l'art en général et c'est dans la société en général également, puisque c'est la même chose pour les savantes, les scientifiques, dans tous les domaines en fait. Les femmes ont été effacées de l'histoire de multiples façons, mais le résultat est le même systématiquement. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment de leur redonner toute la place et les mettre en lumière par rapport à justement tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la musique.
Et comment elle est venue l'idée de créer cette discothèque?
Parce qu'on est plusieurs à être des fanatiques de musique et de disques, donc de support physique, qu'on avait déjà de la matière en fait, depuis assez longtemps, des disques qui s'étaient entassés et tout ça, et l'intérêt d'en faire quelque chose, et puis que ça ne parte pas on ne sait où une fois qu'on aura disparu, tout bêtement, c'est pas plus compliqué que ça pour une partie des choses. Et puis en même temps, on s'est dit que de travailler sur des supports physiques, c'est quelque chose qui pour l'instant n'a pas été fait de façon très étonnante. Hein. Au début, quand on a eu cette idée-là, on s'est dit bon, on va chercher ceux qui l'ont déjà fait et ce qui existe déjà, les endroits où il y aurait des fonds dédiés aux artistes féminines, et en fait, il n'y en a pas.
Ouais, du coup, ça amène à cette question, comment vous faites pour les trouver ces fonds? Vous passez vos week-ends à aller faire toutes les brocantes du coin, et j'imagine sur des artistes, comme vous avez pu le dire, qui viennent de pays africains ou même d'Amérique du Sud, c'était ouais. Pas évident.
En fait, c'est vraiment empirique, surtout qu'on n'est pas nombreux. Pour l'instant, on est deux dans vraiment cette optique-là. Donc, c'est empirique. D'autant qu'on a décidé de se mettre aucune barrière esthétique, ni d'époque. Par principe. Donc en fait, une recherche en amène une autre, et puis avec Internet, c'est infini. Donc voilà, on sait que c'est du temps et que on peut pas être vraiment méthodique là-dedans pour l'instant, mais voilà, c'est un travail qui nous plaît et c'est de la passion aussi. Donc nous, on est toujours avides de découvrir les choses et les destins. Souvent, on s'intéresse à des destins un peu particuliers, des femmes, pour la plupart d'ailleurs, qui vivent des... Il y en a beaucoup, on découvre qu'elles ont eu des destins ultra dramatiques, notamment des maltraitances, des spoliations et des morts dans l'indifférence générale, alors qu'elles ont été célèbres à l'époque, dans leur grande époque. Enfin voilà, ça nous intéresse que ça vient vraiment servir notre propos, c'est-à-dire aller à l'encontre de cette croyance comme quoi les femmes n'ont pas existé dans l'histoire de la musique, dans la création artistique, sachant que parfois les gens sont pas, ils sont pas forcément, c'est pas forcément négatif de dire ça. Certains disent elles n'ont pas eu accès parce que c'était des femmes, donc elles n'ont pas pu créer. Mais même ça, c'est une croyance. Et en fait, voilà, il y a une construction, des constructions sociologiques, culturelles et religieuses qui ont fait qu'elles ont été effacées au fur et à mesure. Mais elles ont existé depuis toujours. On a un exemple de Hildegard
von Bingen,
qui a, entre autres, été une grande compositrice et dont on commence seulement à parler maintenant. Et c'était au Moyen-Âge. Donc voilà, l'idée c'est de réécrire comme il faut l'histoire et de replacer les choses, quoi.
Et cette discothèque, concrètement pour les auditeurs, auditrices, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un fonds dans lequel on va pouvoir venir emprunter des vinyles? Qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça?
Alors, une des premières tâches à laquelle on s'est attelé, c'est de trouver un local pour essayer de poser tout ce matériel de façon pérenne. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé, mais on est toujours en recherche. Et à partir du moment où il y aura ce local, plutôt que de l'emprunt, il y aura la possibilité de venir écouter tout bêtement déjà de la musique. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, ce qu'on fera, c'est qu'on va mettre en place, on va faire un travail de mise en lumière des choses à travers des expositions, à travers des temps d'intervention qu'on pourra faire à tous les endroits où ce sera possible. On sait très bien que dans les lieux de musique actuels, notamment, il y a l'envie et le besoin de mettre en lumière les artistes féminines et que cette dimension-là, matrimoniale, elle est hyper forte. Il y a l'envie autour de ça. Et on sait qu'on va pouvoir faire des interventions comme ça dans divers endroits pour montrer les choses. On l'a déjà fait à la tannerie une fois, tous les deux, et on a vu que ça pouvait fonctionner de façon assez efficace. Donc voilà, il y a ce travail-là à mener. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas vraiment pour le public lambda possibilité de venir voir exactement de quoi il retourne, mais ça ne va pas tarder. Mmh. Le fond, lui, on peut aller le consulter sur Internet, okay. Puisque tout ce qu'on a dans le fond aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment 4000 disques, ce qui est quand même déjà une bonne matière, on va dire, c'est consultable sur un site qui s'appelle Discogs, qui est un site de référencement de disques, et donc avec, en entrant via le nom de la discothèque féministe, eh ben on arrive à trouver tout le fond et aller regarder ce qu'il y a. C'est assez marrant de chercher, de se dire, oh, tiens, est-ce qu'il y a tel artiste, tiens, est-ce qu'il y a de la musique de tel style ou de telle origine, par exemple, et on peut faire des recherches diverses à travers cet outil-là.
On indiquera la référence dans le podcast, dans le texte du podcast. Vous avez dit que c'était une initiative unique en France. Est-ce que vous avez des retours de chercheurs, chercheuses, des médias, des personnes qui sont intéressées par ce sujet ?
Il y a beaucoup de monde qui est intéressé. En fait, dès qu'on en parle, les gens trouvent que c'est une idée géniale. Donc nous, on est déjà allé voir évidemment le ministère de la Culture, on a travaillé avec le CNM. On n'a que des retours hyper positifs. On attend maintenant justement que ça se concrétise, notamment avec des moyens, parce que c'est évidemment ce qui va nous faire défaut à un moment ou à un autre, à la fois pour continuer à collecter, mais en même temps, on va constituer un comité scientifique, c'est-à-dire rassembler des personnes qui font référence dans tel et tel style musical, ou dans telle époque, ou dans tel registre, et de façon à pouvoir travailler de façon avec une démarche un petit peu plus scientifique qu'empirique, comme l'expliquait Patricia. Et puis, on a déjà des personnes qui sont là pour nous soutenir. On a déjà une marraine de la discothèque féministe, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est Virginie Despentes. Et à partir de ces bases-là, on va dire, on est en train de poser tout un tas de jalons de façon à transformer cette idée-là en un truc très concret et qui, on l'espère, va faire florès, comme on dit.
On écoute un autre titre ?
Oui.
Allez, on y va. Alors, un titre de la discothèque ?
Tout à fait. Et une compositrice qui s'appelait rest in peace, Lily Boulanger. C'est une des bases de notre réflexion sur notamment les compositrices et l'histoire de la musique, parce qu'on pense souvent à l'invisibilisation dans la fin du XXe siècle et le XXIe siècle. Et là, il s'agit de Lily Boulanger, qui était de fin XIXe, début XXe, Gilles, je ne me trompe pas.
Oui.
Compositrice donc de musique classique contemporaine et qui a écrit des choses absolument merveilleuses, qui était d'ailleurs comparée à des Debussy à l'époque, à des Stravinsky, qui était vraiment dans cette veine-là et que dont personne ne parlait plus jusqu'à présent. Là, c'est en train de revenir, parfois à l'Auditorium de Lyon. Tout au début, pendant 3 minutes, il passe une pièce de Lily Boulanger juste avant des mecs. Mais voilà, elle commence à être vue et c'était vraiment une très grande compositrice. Elle a eu un destin assez dramatique, bon, comme souvent. Elle est morte jeune, mais ça a été une sorte d'étoile dans le ciel. Et pour nous, ça a été une base de réflexion en disant il faut que les femmes soient célébrées quand elles ont... Elle a un tel talent, elle avait un tel talent, que c'est important qu'elle soit écoutée, entendue et remise en devant la... Je ne sais pas parler, excusez-moi, en avant.
On a bien compris le message. ce travail de discothèque, il va se faire aussi, il se fait en partenariat, notamment la Bourque, un partenariat avec le conservatoire qui est en train de se lancer, se mettre en place.
Ouais, alors là, c'est sur un événement vraiment spécifique. Parce que du coup, on voulait travailler sur les compositrices. Alors, c'est un peu étrange parce qu'on est une SMAC, scène de musique actuelle et tout ça. Et là, on va travailler sur les compositrices de musique classique. L'idée, c'est de les mettre en avant. Pourquoi ? Parce qu'on a rencontré une personne absolument géniale qui s'appelle Claire Baudin, qui a monté un centre qui s'appelle Centre Présence Compositrice, qui travaille autour de la mise en lumière de toute l'histoire des femmes à travers la musique, à travers l'histoire dans la musique. Et là, pour le coup, elles sont spécialisées sur la musique classique. Il y a un travail énorme à faire, puisqu'il faut aller chercher des partitions dans un premier temps. Et elles ont mis en place une base de données qui est assez unique, qui s'appelle Demander à Clara. Donc ça se trouve sur Internet. Et dans cette base de données, on trouve des milliers de compositrices de toutes les époques, de toutes les origines du monde entier. Et cette personne-là, je l'ai vue intervenir sur une conférence à Lyon. Je l'ai trouvée vraiment passionnante. Et je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas génial de la faire venir à la tannerie pour parler de musique, alors pour le coup classique, tant pis, à la tannerie, et de faire mélanger aussi les publics, enfin de faire un truc un peu plus étonnant que ce qu'on fait traditionnellement, on va dire.
Et elle vient au mois de février ?
Voilà, le 6 février, elle sera à la tannerie pour faire une conférence, mais en même temps, on s'est dit, comme le Centre Présence Compositrice a aussi monté une exposition autour des compositrices, on s'est dit, il faut qu'on trouve un endroit pour présenter cette exposition dans le même temps. Et du coup, on a sollicité le CRD qui a été emballé, qui ont trouvé plein d'idées, qui s'en sont bien emparés du projet, qui vont faire beaucoup de choses, eux, avec leurs élèves, dans le même temps, autour des compositrices. Et donc l'expo, elle aura lieu du 29 janvier au 12 février au CRD. Aux horaires d'ouverture du CRD, ben, ce sera l'accès libre. Il y aura des visites guidées aussi, menées par les personnes du centre Présence Compositrice. Donc voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de choses super passionnantes et étonnantes là, sur cette petite période du 29 janvier au 12 février.
Mais c'est une histoire qu'on va suivre de manière très, très concrète. Merci à tous les deux pour votre présence avec nous. Et on va se quitter en musique avec un troisième choix qui est un peu improbable.
Oui, on parle d'invisibilisation et puis on vous met Beyoncé. Donc ça ne paraît pas hyper cohérent. Mais justement, il y a deux angles. Déjà, premièrement, on a l'impression que comme il y a Taylor Swift, Beyoncé, et que c'est les plus grandes vendeuses d'albums, on a l'impression
Rihanna
que
aussi,
le bleu Rihanna... So old. on a l'impression que le boulot est fait, mais pas du tout. Et en plus, au niveau des programmations en radio, en festival, on est toujours ultra minoritaire par rapport à la production féminine. Donc faut pas se leurrer. En revanche, ça fait du bien de voir des artistes féminines fortes qui se suffisent à elles-mêmes, qui ont un vrai discours. Et en plus, le nouvel album, le dernier album de Beyoncé, ça vient croiser les luttes, la convergence des luttes où c'est une femme noire, puissante et qui s'empare de la musique country et qui met en avant le fait que les Noirs ont fait de la musique country et ont participé à la création de la musique country. Et c'est exactement la même chose, c'est le même propos que de dire les femmes ont fait de la musique. Et pour moi, cette convergence des luttes, elle est hyper importante. Et Beyoncé, elle cristallise un peu ça à un endroit et ça fait du bien.
Alors, on écoute le titre.
16 Carriage, qui est extrait de l'album Cowboy Carter.
De Beyoncé.
De Beyoncé.
Sixteen carriages driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night on a long black road. All the tears I fight. 16 carriages driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset. Was gone astray, had to leave my home at an early age. I saw mama praying, I saw daddy grind. All my tender problems had to leave behind. It's been umpteen summers and I'm not in my bed. On the back of the bus in a bunk with the band. Going so hard, gotta choose myself. Underpaid and overwhelmed. I might cook clean but still won't fold. Still working all my life, you know. Only God knows, only God knows, only God knows. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away to the summer sunset on a holy night on a long back road. All the tears I fight. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away till the summer sunset on a holy night on a long back road. All the tears I find.
Et dans notre mallette féministe, au-delà de la musique, il y a des livres et des autrices incontournables.
C'est une autrice, parle bien de ce qui est commun aux femmes, c'est Annie Ernaux. C'est une autrice que j'aime depuis très longtemps. C'est d'ailleurs la première française à recevoir le prix Nobel de littérature.
Qui disait à ce moment-là, pour le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle met à jour les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle.
C'est ce qu'a déclaré le comité de communication du Nobel lors de la remise du prix. Les réactions n'ont pas tardé à se faire jour et elles ont été particulièrement virulentes. On a tout entendu. Annie Ernaux serait antisémite, racialiste, séparatiste, islamiste, hystéroféministe, wokiste bien sûr, et même, injure suprême, pédophile. Sans doute à cause du roman Le jeune homme, où elle relate sa liaison avec un jeune homme de 30 ans, son cadet.
Mais qui était majeur quand même.
Qui était majeur, oui.
Lui, complètement majeur.
On lui reproche surtout d'être une femme, une autrice, et d'avoir volé le titre à Welbeck, qui avait de nombreux supporters. On lui reproche aussi très violemment ses prises de position politique, car Annie Ernaux revendique son engagement féministe, mais aussi son engagement politique très à gauche.
Et d'ailleurs, toute son œuvre est politique. Toute l'œuvre d'Annie Ernaux est politique parce que son travail d'écriture a pour matériau principal son histoire et sa trajectoire personnelle, mais toujours inscrite dans le monde social. On est très très loin de ce type de récit autobiographique où l'auteur va exalter son moi, sa singularité, son individualité et romancer sa vie. On n'est vraiment pas là-dedans. Chez Annie Ernaux, le je, J-E, est toujours inscrit dans le social, car pour elle...
L'intime est encore et toujours du social parce qu'un moi pur où les autres, les lois, l'histoire ne seraient pas présents est inconcevable.
Alors ça résonne pas mal avec le slogan féministe l'intime est politique, non ?
Oui, alors son roman Les années, qui est paru en 2008, c'est mon préféré. Il est paru donc, je disais en 2008, où elle parle, Annie Ernaux, il parle d'autobiographie impersonnelle, tout le vécu de sa génération à travers son expérience à elle. Comme presque toujours en la lisant, on revit sa propre vie, ses propres expériences. C'est si proche de toutes les situations que vivent les femmes, un avortement, la sensation d'être piégé dans la vie conjugale, une relation amoureuse interdite, etc. Dans les années, personnellement, j'ai réellement eu l'impression de revivre mon enfance et ma jeunesse, ma scolarité, la famille, mai 68 et ces libérations anti-autoritaires, contre, oui, antifamiliales aussi, sexuelles, et de mieux comprendre ces différentes périodes à travers les petites choses banales rapportées. On retrouve des chansons, des émissions, des discours, tout ce qui a entouré les gens après la guerre. En relatant des faits simples de façon claire, Annie Arnaud démontre les changements d'une époque et dépeint les imaginaires collectifs de notre époque. Elle dit
« C'est à la fois le récit de ma vie, mais aussi celui de milliers de femmes qui ont elles aussi été en quête de liberté. »
Et pour moi, c'est « Les armoires vides » publié en 1974 qui marque ma première rencontre avec les livres d'Annie Arnaud. Alors, je ne l'ai pas lu en 1974, c'était un peu plus tard quand même. J'étais étudiante et un prof de socio nous l'avait présenté, ce livre, comme une très bonne illustration de la déchirure sociale que vit la personne qui vient d'un milieu dominé, populaire, et dont la trajectoire sociale l'amène à fréquenter un autre milieu dominant, bourgeois et cultivé. Dans ce livre, Annie Arnaud raconte ses humiliations de transfuge de classe, la honte de sa famille, de son milieu d'origine et la honte d'elle-même. J'ai trouvé que c'était une littérature, enfin une lecture vraiment libératrice. Avec Annie Arnaud, on économise pas mal de séances chez le psy, je trouve. Et un peu plus tard, et en pleine prise de conscience féministe, c'est La femme gelée, son deuxième roman publié, qui est aussi le deuxième roman que j'ai lu, et qui est venu, lui, alimenter une colère profonde pour tout ce qui pouvait limiter les désirs et projets des femmes, et aussi une grosse méfiance pour la vie de couple hétérosexuelle, la maternité et les limitations qu'elle pourrait engendrer.
En effet, dans La femme gelée, parue en 81, Annie Arnaud explore la condition des femmes dans la France du XXe siècle, piégées dans leur rôle d'épouse dans une société patriarcale.
Oui, et je me souviens encore très bien des dernières phrases de son livre où elle résume son parcours, celui au départ d'une enfant, d'une jeune femme libre, curieuse, avide de découvertes et qui devient, avec le mariage et la maternité, progressivement, insidieusement, une femme gelée.
Toute mon histoire de femme est celle d'un escalier qu'on descend en renâclant.
Écrit Annie Arnaud dans les dernières pages du livre. Je me souviens du sentiment de sororité que ce bouquin a fait grandir en moi. Et puis je me souviens aussi d'avoir voulu décohabiter avec mon compagnon de l'époque.
D'avoir voulu
Non, je ne l'ai pas fait, mais effectivement, pendant plusieurs semaines, j'étais un peu...
Est-ce qu'on le salue quand même au passage?
Oui, on peut.
Autre livre incontournable d'Annie, c'est L'événement, qui est paru en 2000. Ouvrage emblématique, qualifié d'obscène par certains critiques, où Annie Arnaud raconte son avortement clandestin dans les années 60 et que cet acte interdit, à l'époque où cet acte était interdit en France. Un avortement bien sûr difficile, mais vécu comme une sorte d'émancipation sociale. Mon corps, mon choix.
Et plus récemment, Mémoire de fille, qui est sortie en 2016, est aussi un récit énorme, enfin éblouissant, à lire et relire à mon avis. Et dans ce roman, enfin dans ce récit, toujours autobiographique, Annie Arnaud revient sur l'été de ses 18 ans en 1958, moment de honte et d'humiliation, celui de sa première expérience sexuelle, qui est une première fois en fait qui s'apparente à un viol et qui créera un profond traumatisme dont elle n'a pas perçu les effets déflagrateurs sur le moment. Elle constate alors...
Je suis incapable de trouver dans ma mémoire un sentiment quelconque, encore moins une pensée. La fille sur le lit assiste à ce qui lui arrive et qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre une heure avant. C'est tout.
Une citation d'Annie Arnaud résume cette œuvre. Elle constate une disproportion inouïe entre l'influence sur ma vie de deux nuits avec cet homme et le néant de ma présence dans sa vie à lui.
Voilà, il y aurait encore beaucoup à dire. Tous les livres d'Annie Arnaud sont formidables. Je trouve ces écrits libérateurs en ce qu'ils mettent à jour le refoulé social, les structures de la domination, qu'elles soient masculines ou de classe. Et ce sont des livres qui brisent aussi des solitudes. Allez, on met tout Annie Arnaud, la vingtaine de bouquins qu'elle a écrits, dans la mallette de nos coups de cœur.
Et on peut penser aussi au travail d'Annie Arnaud quand on se penche sur l'illustratrice Aude Mermillot.
Tout à fait. Aude Mermillot, elle écrit, elle dessine. Elle a sorti en fin d'année un ouvrage qui s'appelle Éclore. C'est une bande dessinée, une autobiographie aussi qui retrace sa route. Sa route à elle. Alors une route, ça monte, ça descend, ça tourne, ça vire, ça revire. C'est arrêté par des travaux et on doit suivre aussi des déviations. En début de chaque chapitre, il y a une graine qui germe, qui se développe. C'est la métaphore qu'elle a filée tout au long du livre. Elle reconnaît que ce n'est pas très, très original, mais ça met de l'air dans un propos qui peut nous brasser, dit-elle. Les premières pages de Éclore, ben, un bébé, une petite fille, aux yeux et aux oreilles grandes ouvertes sur ce qui l'entoure, en toute innocence, jusqu'à ce que le regard des autres se pose sur elle, et ce qu'elle donne à voir, donc son corps. Les autres sont là, le regard est déjà culturé chez les petits garçons. Après, c'est la puberté, les frôlements de mains, les premiers émois, les règles et la honte de montrer le son, les culottes qu'on cache, le corps qui se transforme.
Ce corps qui change de forme et où je ne sais pas quoi en faire, quoi, parce que je vois qu'il est... Ça, je pense que c'est toute génération confondue, où le moment de l'adolescence, c'est où on se retrouve un peu dans un corps de femme, alors qu'on est encore complètement enfant, et de toute façon violent, pour les garçons comme pour les filles, d'ailleurs, je pense. Mais oui, je vois qu'il y a tout un projet autour de ce qui est supposé être mon corps, et que je ne vais visiblement pas être satisfaisante par rapport à ces objectifs.
Et puis la route se poursuit, trouver sa place. Quand on a 13 ans, ben c'est souvent prendre un modèle, une copine un petit peu plus grande, qui nous ouvre le chemin vers l'adolescence. Et l'adolescence, le moment des sentiments, des émois contradictoires. Alors, ça rappelle un petit peu ce que vous venez de dire avant avec Annie Arnaud. J'y vais pas, je dis oui à ce beau gars, à ce grand. À un moment, il lui dit, mais regarde dans quel état tu m'as mis. Lui, c'est un grand, lui, il sait déjà. Et sous la pression aussi des autres filles, des ragots et des réseaux sociaux, eh ben, c'est la première fois. Et puis elle voulait pas.
Cet abus ne m'a pas mis en pièces.
C'est ce qu'elle dit, l'autrice.
Par contre, il m'a morcelé.
C'est ça. Le dépucelage forcé, 20 ans pour s'en remettre. Et c'est en écrivant ce livre que je me rends compte que cette première fois, c'était un viol, dit l'autrice. Et ça parle à beaucoup de femmes, la première fois. Alors moi, j'ai découvert Aude Mermillot il y a quelques années. Une de mes filles m'avait offert sa deuxième BD qui s'appelle « Il fallait que je vous dise ». Là, c'est la question d'être ou de ne pas être mère qui est abordée. Nous avons le droit ici de prendre ou pas la responsabilité d'une maternité. C'est intéressant ce qu'elle en montre.
Avorter, c'est un choix de maman.
Et c'est à l'occasion de la sortie Éclore que Aude Mermillot a été invitée à Bourg-en-Bresse en décembre dernier. Quand l'histoire personnelle rejoint celle des autres, c'est une histoire, celle des femmes, dit-elle, qu'on n'aura jamais fini de répéter en long, en large et en travers, en rage, en joie, en mots et en images.
Il fallait que je vous le dise, donc c'est un récit sur l'avortement et je l'ai fait avant tout, pas mal pour moi en fait celui-là je pense au début, avec cette idée qu'il y avait quand même très peu de récits sur l'avortement qui existaient, que ce soit en BD ou en littérature d'ailleurs, et que bah, moi j'avais vécu quelque chose, que j'avais déjà quand même pas mal pris de notes au moment où je le vivais, donc j'avais des journaux intimes un peu qui existaient de cette époque-là, et que ça me semblait, enfin il me semblait qu'il y avait quelque chose à dire sur l'IVG, maintenant qu'on n'avait plus du tout les mêmes problématiques que l'événement d'Annie Arnaud par exemple, où on avait des problématiques qui touchaient pas à rester en vie, mais qui pouvait tout le temps pouvait être abordé sur la thématique des émotions que ça générait, et il n'y avait pas grand chose. Donc celui-là, je l'ai vraiment fait dans cette optique-là de moi dire quelque chose. Avant tout pour moi, mais évidemment destiné à un public, quoi. Et j'ai vu l'écho qu'il a eu. Ce livre-là, pour les femmes et quand même des hommes aussi. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages. Donc j'ai vu en fait la portée que ça avait de faire un livre d'une expérience intime et à quel point ça soulageait en fait des gens de se dire « Ah bah, j'ai vraiment vécu quelque chose de très similaire et maintenant il y a un livre qui parle de ces émotions-là que j'ai vécu aussi, donc ça veut dire que je suis pas folle en gros, quoi. » Et donc quand j'ai fait Éclore qui parle de sexualité... j'étais quand même très très nourrie de ce que j'avais vécu avec le premier. Donc pour le coup, je l'ai beaucoup plus fait pour les lectrices que pour moi-même, celui-là. Et je les avais un peu sur l'épaule, quoi, quand je le faisais. Donc j'avais pas du tout les mêmes choix de comment est-ce qu'on raconte l'intime et comment on raconte parfois la violence de l'intime. J'ai été beaucoup plus douce est beaucoup plus délicate avec le lectorat que je l'étais pour Il fallait que je vous le dise, qui est plus frontal, où finalement il y a plus de violence dans le dessin. Alors que voilà, pour Éclore, j'ai été plus suggestive dans la façon de dessiner, notamment les scènes d'abus. Et après, le pourquoi, c'est un peu... parce qu'il s'avère qu'il m'est arrivé des choses, et il s'avère que je sais faire des livres, et que du coup, ça me semblait presque un peu obligé, en fait, à un endroit. Le pouvoir, moi, de concevoir des récits à partir d'un vécu personnel... Et c'est des sujets où il y a besoin de récits, quoi. Il y a besoin de récits pour que la société avance. Et là, voilà, ça allait en faire deux de plus, en tout cas, qui, j'espère, enfin, qui, maintenant, je le sais, vu qu'ils sont sortis, ont fait du bien, quoi, pour des personnes qui ont vécu des trucs totalement équivalents, mais qui, pour le coup, n'ont pas forcément le pouvoir de faire un livre ou de faire n'importe quoi d'autre, d'ailleurs, de ces expériences, et qui, parfois, restent un peu coincés avec ces vécus-là sans que ça s'extériorise, quoi.
Dans le livre « Il fallait que je vous dise », l'autrice avait comme complice Martin Vinclair. Aude Mermillot souhaitait rencontrer un médecin, mais pas n'importe lequel, un soignant qui sait écouter. L'auteur du livre « Le cœur des femmes », où il parle de son métier de soignant, un soignant qui essaye autant faire se peut d'alléger les moments angoissants liés aux visites et aux actes gynécologiques. D'ailleurs, vous pouvez aller voir et écouter un podcast quand Martin Vinclair était venu dans le studio. Là, c'était super intéressant. Et Aude Mermillot adapte le roman en BD. C'est d'ailleurs souvent ce livre qui est travaillé avec les jeunes qu'elle rencontre, comme à Bourg-en-Bresse dans un lycée de la ville, quand elle est venue. Les livres sont des prétextes à échanger avec différents groupes. En décembre, il y a eu donc un groupe de classe de seconde. Il y a eu un groupe de femmes aussi. Et Aude Mermillot nous parle aussi d'un groupe d'étudiants en médecine. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, ils peuvent parler des pratiques et surtout de leur formation. Lors de ces rendez-vous, qui créent des échanges constructifs entre les personnes, il y a vraiment la rencontre entre la théorie et la pratique, dit l'autrice. Une façon de dire l'intérêt de l'artistique dans la vie quotidienne, passer du singulier au collectif, faire avancer des idées et mettre des mots sur des actes vécus.
Un truc qui revient beaucoup à la lecture de mes livres, c'est le fait de dessiner des corps proches du réel, avec de l'honnêteté sur... La forme, la couleur, la pilosité, que sais-je, l'âge. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est devenu un parti pris parce que j'ai vu que pour les gens, c'en était un. Alors que pour moi, c'était plutôt naturel de dessiner des personnages qui ressemblent à des personnages dans la vraie vie. Et j'ai vu qu'en fait, notre société en fait quelque chose de militant en disant « c'est super de dessiner des vrais corps ». Donc là, c'est un sujet qui émane sans que je l'ai vraiment choisi. Après, bah voilà, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de l'intimité et de la sécurité et de comment est-ce qu'on se crée soi-même. Enfin, comment est-ce que notre propre identité apparaît un peu en dépit de la violence qu'on se prend, quoi. Et comment est-ce qu'on peut sublimer ça et comment est-ce qu'on peut redevenir un peu souveraine de sa propre vie malgré les faux pas que nous fait la vie, justement.
Voilà, et puis pour clore cette entrevue, c'est la dessinatrice qui nous parle.
Mon dessin, il change un peu parce qu'il change un peu avec les années, mais c'est plus une différence de cadrage, de mise en scène. Où, par exemple, il y a une scène de début d'agression sexuelle dans Il fallait que je vous le dise, que j'ai dessinée de façon hyper frontale, où on voit vraiment le sexe de l'homme, etc. Parce qu'à l'époque, ce qui m'importait, c'était de dessiner le réel, vraiment tel qu'il se produisait. Voilà. Sauf que là, dans Éclore, vu qu'on allait parler aussi de violence sexuelle, je ne voulais pas du tout mettre en difficulté mon lectorat. Donc je suis restée beaucoup plus proche du corps de la jeune fille, avec par exemple des cadrages sur ce qu'elle regarde. Il n'y a jamais de plan large sur la. Enfin, il y a très peu de plans larges sur la sexualité, en fait, parce que je ne voulais pas qu'on puisse sexualiser de l'abus, déjà, qu'on puisse érotiser de l'abus. Et en termes généraux, c'était quand même le propos que je voulais qui soit le plus important. Et je sais que visuellement, quand on regarde un livre, si on voit de la sexualité de façon frontale, bah, ça va aller vers des images qui vont être plus des imaginaires plus pornographiques, en fait. Donc, je voulais pas appuyer sur ces curseurs-là. Et ça, c'est vraiment de la maturité dans le métier qui fait que j'avais cette distance-là que j'avais pas avant, quoi.
Voilà, et encore une fois, ce qu'elle disait, donc une histoire, celle des femmes qu'on n'aura jamais fini de répéter, en long, en large et en travers, en rage, en joie, en mots et en images, et une référence qu'elle fait en début d'ouvrage à Anne Sylvestre, évidemment, « Non, non, tu n'as pas de nom ».
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non.
Alors moi, tout ça, ça m'inspire ce mot nouveau, sororité, ou la notion de fraternité entre femmes. Un mot qui apparaît dans nos échanges féministes depuis peu et que je trouve très beau et très parlant. Alors c'est quoi la sororité? C'est se dire que toutes les femmes font partie d'une seule et même communauté, même les pires, même celles qui ne nous ressemblent pas. C'est trouver dans le regard d'autres femmes une complicité lorsque l'enfant fait une crise au supermarché, lorsque le conjoint ne se souvient plus de la date d'anniversaire de sa mère, lorsqu'elle retire son gilet puis son pull en demandant « il fait pas un peu trop chaud là ?» Ce mot, il m'interroge, il me fait ressentir pas mal de choses. Une des premières, c'est celle de l'idée de sœur, celle de la famille. Je vous dis ça parce que moi, j'ai pas eu de sœur. À mon grand regret encore aujourd'hui, je me suis souvent demandé, en observant des sœurs, si ça aurait changé ma manière d'être. Alors le concept de sororité, j'ai tout de suite eu envie de l'adopter. Parce qu'en fait, mes sœurs, ce sont mes amies qui m'accompagnent depuis toutes ces années. Ce sont celles de mon conjoint, ce sont mes camarades de lutte, ce sont les mamans que je côtoie matin et soir, ce sont les femmes avec qui je travaille, que je croise à la caisse du supermarché, que j'admire, que j'aime lire, écouter, regarder. En réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que les sœurs avaient peuplé mon univers depuis toute petite, que je les ai cherchées pour me construire. Et à l'instar de ce que raconte Blanche Le Ridon, autrice de l'essai « Le château de mes sœurs » des Brontë aux Kardashians, les premières sœurs dont je me souviens, ce sont celles de Cendrillon. Ambiance. Blanche Le Ridon explique en fait que dans l'imaginaire collectif, on associe des notions de divergence, de rivalité, de conflit à une fratrie de sœurs. L'impact ici, discréditer les femmes, encore une fois, et installer cette idée que c'est très grave de n'avoir que des filles. D'ailleurs, pendant longtemps et aujourd'hui encore, dans certaines cultures, avoir des filles, une multitude de filles, c'est plutôt un fardeau. Heureusement, et c'est une de nos missions dans cette émission, il est toujours temps de déconstruire nos imaginaires.
Attends, ça va peut-être.
Alors, je vous ai fait une petite liste de romans, de séries télé ou de films pour vivre les relations entre sœurs différemment.
Quatre styles, quatre filles, mais elles sont toutes gentilles, la tendresse les réunit. Quelquefois elles se griffent, elles sont en rage, mais la paix revient vite après l'orage. On peut dire ce qu'on voudra, car rien ne les séparera.
Ah oui, hein, je suis une enfant du Club Dorothée. Et voilà, ça c'est la sororie de mes rêves. Sororie, c'est le terme que l'historien des familles Didier Lett utilise. Alors, les quatre filles du Dr March, c'est Meg, Jo, Beth et Amy, quatre sœurs dont le père, le Dr March, est parti pour la guerre de sécession. À la base, c'est un roman de Louisa May Alcott paru en 1868. Pour moi, c'est un roman fondateur de la conscience féministe. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Simone de Beauvoir écrit à son sujet dans « Mémoire d'une jeune fille rangée en 58 ».
Il y a eu un livre où j'ai cru reconnaître mon visage et mon destin, « Les quatre filles du Dr March » de Louisa May Alcott.
Merci Simone. J'ai évidemment lu le roman et vu 150 fois la version adaptée au cinéma en 1994 avec les magnifiques Winona Ryder dans le rôle de Jo, Susan Sarandon dans celui de la maman ou encore Kirsten Dunst dans celui d'Amy. Alors le personnage clé, c'est Joséphine, Jo, son rêve, devenir écrivaine. On est bien loin de ce que réserve la société américaine aux jeunes femmes de l'époque. Ce qui est magique dans l'histoire de ces quatre sœurs, c'est de voir combien, en autonomie, elles réussissent chacune à mener leur destinée où elles le souhaitent. On parlait dans l'émission précédente de la réalisatrice Greta Gerwig pour le film Barbie. Eh bien, elle avait repris Les quatre filles du Dr March au cinéma en 2019. À voir avec vos ados pour une version un peu plus moderne que celle de 1994.
Je travaille sur un roman. C'est l'histoire de ma vie et de mes sœurs.
Faites court et piquant. Et si le personnage principal est une fille, arrangez-vous pour qu'elle soit mariée à la fin.
Ah, Jo!
Je veux être artiste à Rome et devenir le meilleur peintre du monde.
Ce n'est pas ce que tu veux toi aussi, Jo, devenir un célèbre écrivain?
Si, mais ça fait tellement vulgaire quand elle le dit. Mes filles ont tendance à faire des sottises.
Oh, moi aussi. Voici Meg, Amy, Beth et Jo.
Je compte bien réussir par moi-même.
Personne ne réussit jamais seul, surtout pas une femme. Tu dois faire un bon mariage.
Mais vous, vous n'êtes pas mariée, tante March.
Oui, mais moi, je suis riche.
Jo, voudriez-vous danser avec moi?
C'est impossible. J'ai brûlé ma robe et Meg m'a dit de ne pas bouger pour que personne ne s'en aperçoive.
Je crois que j'ai trouvé comment faire.
Alors, dans la même veine, un conseil lecture en jeunesse, la tétralogie de Malika Ferjouk, Quatre sœurs, ou l'histoire des cinq orphelines verdelaines. Donc, ces quatre tomes qui sont consacrés à presque chacune des sœurs. C'est édité à l'École des loisirs. Ça existe même en BD aux éditions Rue de Sèvres. C'est un délice pour les enfants à partir de 10 ans et puis pour les ados pour la partie roman.
Tu t'es sacrifiée pour me sauver la vie. Parce que je t'aime.
Oh, une véritable preuve d'amour peut faire fondre un cœur gelé.
L'amour guérit tout. L'amour, bien sûr. Elsa, l'amour.
Encore plus facile d'accès, un coup de cœur chez Disney pour moi, La Reine des Neiges. Alors ouais, faut aimer les films où ça chante, mais je vous assure, ça vaut le coup. D'ailleurs, j'en profite pour faire une dédicace à mes belles sœurs, une expression que je valide à 100%, car c'est entre filles qu'on a vu ce film et on en est sorti avec un sentiment de puissance hyper enthousiasmant. Alors pourquoi c'est important de se nourrir de ces récits de sœurs? Blanche Le Ridon le formule ainsi.
Moi, ce que j'essaie de retracer dans un des titres provisoires du livre, c'était l'archéologie de la sororité, c'est de montrer que autant la fraternité n'existerait pas sans la fratrie. Et donc, peut-être la sororité lui manque, alors sans être dans une démarche essentialiste et dire que c'est les sœurs biologiques qui auraient tout créé et que leur pendant sociologique construit serait quelque chose de moins important. Pas du tout. Au contraire, moi je les mets sur une même place et dans une même position. Mais j'essaie de montrer comment est-ce que ces figures de sœurs peuvent aussi nous aider à mieux comprendre tous les empêchements qu'il y a dans la sororité aujourd'hui. Et si on arrive bien à consolider cet état intérieur, je suis convaincue que ça ne fera que favoriser l'état qui le suit.
C'est ça, proposer des modèles de sororie où ça fonctionne permettra pour nous, les sœurs de combat, de nous engager ensemble pour du commun, sans rivalité, concurrence, jugement. Dans les modèles que je viens de vous présenter, on reste sur des sœurs enfants. Mais que se passe-t-il quand elles grandissent ?
Les petites filles, les sœurs quand elles sont petites, quand elles sont enfants, vous avez des représentations absolument pléthoriques d'elles. Et puis, dès qu'elles vieillissent, entre guillemets, en tout cas, dès qu'elles sortent du carcan de l'enfance et du noyau familial, elles disparaissent. Ou alors, elles sont de vieilles sorcières, comme celle d'Hocus Pocus ou celle de Macbeth. Elles sont de vieilles sorcières acariâtres qui ne peuvent que être enfermées et synonymes un peu de repoussoir. Et donc, je voulais dire, mais en fait, en réalité, vous avez le droit, passé l'âge prescrit de l'enfance, de rester un collectif soudé et de conserver, sur la base du volontariat, une relation entre sœurs. Et c'est vrai que ces relations-là, elles sont infiniment moins montrées et on en parle beaucoup moins.
Du côté de la pop culture, les sœurs Kardashian en sont l'exemple numéro un. Alors pour rappel, ce sont 5 sœurs, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall et Kylie, qui vivent de la télé-réalité imaginée par leur mère alors qu'elles étaient ados. Ça fait plus de 25 ans que la vie de cette famille est sous les projecteurs. Ce qu'explique Blanche Leridon, c'est que au-delà du modèle de féminité et de vie que ces femmes représentent, qui ne nous parlent pas forcément, elles ouvrent quand même un nouvel imaginaire autour des sorories. Ici, on retrouve un peu l'esprit des 4 filles du Dr March, hein, en version bling-bling business, hein, car c'est bien en autonomie totale que ces femmes développent leur entreprise, gèrent leurs enfants et se réunissent. Les hommes sont présents, mais plutôt comme des figurants. En termes d'audience, les Kardashians, c'est 70% de femmes, surtout entre 18 et 34 ans. Alors, quel impact sur les spectatrices de ces émissions ? On sait que nos imaginaires sont construits par ce qui nous entoure. Peut-être que la question des relations entre sœurs évolue aussi grâce à ce genre de show. Et puis, si jamais vous voulez vraiment pas regarder cette télé-réalité, il existe aussi des séries avec des relations entre sœurs qui sont intéressantes. Je pense à Fleabag, à retrouver sur Prime. Alors attention, ça peut être quand même assez violent parce que c'est sans filtre sur des nombreux sujet très très dur, ou encore Life and Beth sur Disney. D'ailleurs, dans cette série, on voit aussi l'héroïne se remémorer sa première fois, et on n'est pas loin de ce que tu as partagé tout à l'heure, Joël. Et puis, on peut aussi citer des films, hein, Virgin Suicides, Mustang, où là, les sœurs sont plus malmenées par le patriarcat. Jacques Audiard, que vous connaissez toutes, qui vient de recevoir un Golden Globe pour le film Emilia Pérez, on a même fait l'introduction de son discours.
Je n'ai jamais eu de sœur et je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce film, de sœur. S'il y avait plus de sœurs dans le monde, peut-être serait-il meilleur.
En tout cas, moi je vous invite vivement à vous pencher sur leur univers et vive la sororité.
Et on continue notre mallette de coups de cœur pour aborder 2025 avec enthousiasme et détermination, avec un peu de théâtre cette fois, avec le spectacle « Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze », un seul en scène de Chloé Oliveres, alors seul en scène on disait avant One Woman Show, oui, ça donne envie de danser, que vous avez peut-être eu la chance de voir au théâtre de Bourg-en-Bresse en 2024. Dans ce spectacle, la comédienne qui se définit comme féminette ou midiniste, c'est-à-dire à la fois féministe et midinette, ou à la fois midinette et féministe, nous raconte qu'après avoir vu le film Dirty Dancing ado, elle a pris la décision de devenir comédienne pour pouvoir vivre une histoire d'amour avec Patrick Swayze. Et oui, rien que ça.
C'est un peu raté parce que Patrick Swayze a dû décéder pas très longtemps après, mais bon. Et donc, c'est un spectacle réjouissant, vraiment très drôle, qui propose une relecture féministe du film Dirty Dancing et une réflexion sur les fictions qui l'ont construite, ce qu'elle en a fait, la manière dont elle a modelé aussi ses attentes amoureuses. Alors, vous n'avez peut-être jamais vu Dirty Dancing. Petit résumé pour toutes les personnes qui ont raté ce monument du patrimoine cinématographique mondial.
Mince ! Il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissent pas Dirty Dancing. Non, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ne connaissent pas Dirty Dancing, c'est très simple. C'est l'histoire de bébé, 17 ans, qui part dans un centre de vacances avec ses parents. Et là-bas, elle rencontre Johnny, Patrick Swayze, professeur de danse, et tombe immédiatement sous son charme. Cocon. Johnny organise régulièrement des contre-soirées réservées aux employés où on danse des dirty dancings. Bébé s'y incruste en faisant le coup de la pastèque et découvre les danses lascives. Ça, c'est le titre du film en québécois. Pendant ce temps-là, Penny, la meilleure amie de Johnny et sa partenaire de danse, a besoin d'avorter, ce qui la contraint à rater un gala très important.
Bah, que ça tienne, bébé va la remplacer.
Et alors, le film, d'ailleurs, ça vaut le coup de le voir ou de le revoir. On est toutes d'accord autour de la table.
C'est vrai, même moi qui viens juste de le découvrir.
Voilà, il n'est jamais trop tard. J'en avais gardé, moi, le souvenir d'une histoire d'amour quand même un peu banale, assez classique, entre deux personnes, deux milieux sociaux différents que tout oppose. Et puis le tout enrobé de chorégraphies et de chansons réjouissantes et de quelques phrases culte. C'est pas que ça, Dirty Dancing, loin s'en faut. C'est aussi, et ça je l'avais un peu oublié, c'est aussi une histoire d'avortement illégal et de solidarité entre femmes. Et par ailleurs, même l'histoire d'amour, elle n'est pas si classique à y regarder de plus près. Parce que d'abord, le corps objet de désir dans Dirty Dancing, c'est pas celui de bébé... le personnage principal féminin, mais celui de Johnny. Et dans la relation, d'ailleurs, bébé assume son désir avec beaucoup d'enthousiasme. Elle n'est pas du tout présentée comme une jeune fille passive qui attend que le séduisant Johnny la remarque. Elle prend des initiatives. Sa première fois, d'ailleurs, parce que c'est ça aussi, on en parlait tout à l'heure, de première fois, pour le coup, n'est pas un abus ni un viol. Et puis, par ailleurs, elle s'éclate tout court, elle s'éclate en dansant. Elle n'est pas effondrée, non plus quand ils doivent se quitter à la fin de l'été. Elle va pas changer sa vie, elle va pas changer ses plans pour le suivre je ne sais où. Ce qui amène Chloé Oliveres dans son spectacle à imaginer que 50 ans plus tard, bébé qui fait le point sur sa vie raconte qu'elle n'a jamais revu Johnny, qu'elle est devenue une danseuse professionnelle très très connue et qu'elle a eu une vie libre, riche et indépendante. Alors pour ceux et celles qui aimeraient voir ce spectacle qui est vraiment réjouissant, vous pouvez le trouver à Mornant prochainement dans le Rhône. Et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, une BD tirée du spectacle est apparue en 2023. Voilà.
Et on se quitte sur la voix de Patrick Swayze, comme le vent. Merci à vous pour cette émission aussi revigorante que les températures. On se retrouve le mois prochain pour parler de couleurs. À bientôt.
À bientôt. To my tree. She rides the night next to me. She leads me to moonlight. Only to burn me with the sun. She's taken my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with all a dream? Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Just a fool to believe.